بسم الله الفخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل الحديث في فان إدي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. Donc le hadith il dit, c'est dans Sahih Muslim, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange par la main droite, et quand il boit, qu'il boive par la main droite, car le diable mange et boit par la main gauche. ما يؤخذ من الحديث تقدم لنا في حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. On a vu précédemment le hadith d'Aïcha, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite quand il mettait ses sandales, quand il se peignait, dans sa purification et dans toutes ses affaires. Et parmi ces affaires dans lesquelles il aimait commencer par la droite, le fait ou alors faire les choses par la droite, le manger et la boisson. فَكَانَ عَادَتُهُ الْكَرِيمَةُ أَنْ لَا يَأْكُلَ وَلَا يَشْرَبَ إِلَّا بِيَمِينِهِ. Donc son habitude c'était de ne boire et de manger que avec la droite. وَقَالَ لِعَمْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ يَا غُلَامَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ رواه البخاري ومسلم. Et il a dit à Amr ibn Abi Salama, c'est un jeune, il lui a dit: oh, ya ghulam, ô enfant, prononce le nom d'Allah et mange avec ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Ça c'est dans les deux sahih. وَقَالَ لِرَجُلٍ أَكَلَ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ كل بيمينك فقال لا استطيع لم يمنعه الا الكبر فقال لا استطعت فما رفعها الى فمه. Et dans un hadith il a été rapporté qu'un homme il avait mangé devant le prophète avec sa main gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit: mange de la main droite, et il lui a dit: je peux pas. Et celui qui a rapporté le hadith, le compagnon, il dit: il y a que l'orgueil qui l'a empêché. En fait il pouvait, mais par orgueil il a dit: je peux pas. Et le prophète il lui a dit: la استطعت, ne puisses-tu pas, c'est-à-dire une dua. Et il dit le rapporteur, après il n'arrivait plus à lever sa main jusqu'à sa bouche, sa main droite. Wa hadithu al-bab fihi al-amr bil akl bil yamin wa shurb bil yamin fa yadullu ala an hadha lil wujub bi anna muqtada al-amr al wujub wa yadullu ala an diddahu wa huwa al-akl wa shurb bil shimal haram. Et le hadith qu'on a avec nous, c'est un ordre de manger et de boire avec la main droite. Donc ça montre que c'est une obligation, puisque l'ordre à la base il indique une obligation, et que son contraire, c'est-à-dire de le faire avec la main gauche, c'est haram, c'est interdit. وَبَيَّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالشِّمَالِ هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَالتَّشَبُّهُ بِالشَّيَاطِينِ مُحَرَّمٌ لَا يَجُوزُ. Et il a montré, sallallahu alayhi wa sallam, que le fait de manger et de boire par la main gauche, c'est l'acte du diable, et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et il nous est interdit de ressembler aux démons, aux shayatines. Donc ça c'est une preuve en fait, la cause dans le hadith quand il a dit car c'est l'action du shaitan, ça prouve que c'est obligatoire de manger et de boire par la main droite. S'il n'avait rien dit, on aurait pu dire c'est simplement conseillé. Mais là comme il a dit que c'était l'action du shaitan de le faire par la main gauche, or c'est haram, interdit complètement de ressembler au shaitan, donc c'est haram, c'est pas simplement déconseillé. وقال في شرح منظومة الآداب: اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات وتقديمها في القربات فهي لما شرف واليسرى لما خبها. Ici il cite la parole de Safarini qui dit: donc la main droite il est préférable de l'utiliser dans le bien et de la devancer dans les bonnes actions, donc elle est pour les choses nobles, alors que la main gauche elle est pour les choses mauvaises. فيندب تقديم اليمنى في الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والسروال والخف ودخول المسجد والمنزل والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس وندف الإبط والسلام في الصلاة والأكل والشرب والمصافحة والمناولة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما في ذلك كله. Il dit donc il faut et il est préférable de devancer la main droite et la droite en général dans les ablutions, dans le roussel, c'est-à-dire le lavage du corps, dans le tayammum, dans le fait de mettre un vêtement, de mettre une sandale ou une chaussure, dans le fait de mettre un serouel, c'est-à-dire l'équivalent des pantalons larges, El khouf, c'est-à-dire ce qui englobe, ce qui couvre le pied, quand on entre à la mosquée ou à la maison, quand on met le khul à son œil, quand on coupe ses ongles, quand on coupe sa moustache, quand on rase sa tête, quand on épile ses aisselles, quand on dit le salam dans la prière, à la fin de la prière, quand on mange, quand on boit, quand on serre la main, quand on donne et quand on prend, et quand on touche la pierre noire à la Mecque et le Ar-Rukn al-Yamani, c'est-à-dire le coin yéménite de la Kaaba. وأما ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى لدخول الخلاء والحمام والامتخاط والاستنجاء وما شابه ذلك فيندب أن تكون باليسرى. Quant à tout ce qui est mauvais, alors il vaut mieux le faire avec la main gauche, comme entrer aux toilettes, ou alors au hammam, ou alors le fait de faire son nez, ou de se moucher, ou alors de se nettoyer après les besoins, tout ça c'est mieux de le faire avec la main gauche. والأصل في ذلك قول عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلافه وما كان من الأذى رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. Et la base dans tout ça, dans toutes ces règles, c'est le hadith d'Aïcha où elle a dit la main du prophète, sa main droite, صلى الله عليه وسلم, était pour sa purification et sa nourriture, et sa main gauche était pour tout ce qui est à l'opposé de cela. Et min al-adha, c'est-à-dire les choses mauvaises. Ça, c'est dans les sunan d'Abi Daoud. Hadith suivant, il dit: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Donc le hadith il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: mange et bois et habille-toi et donne l'aumône sans gâchis ni orgueil, c'est-à-dire sans excès ni orgueil. Ça c'est dans les sunan d'Abi Daoud et le musnad de l'imam Ahmed, et c'est mu'allaq chez Al-Bukhari. Qu'est-ce que ça veut dire mu'allaq? Ça veut dire le hadith dont l'imam Al-Bukhari ou n'importe quel muhadith en général, il coupe le début de la chaîne de transmission. Par exemple, l'imam Al-Bukhari va dire qala Malik, l'imam Malik a dit, et il cite la chaîne de transmission jusqu'au prophète. Or l'imam Al-Bukhari, on sait très bien qu'il n'a pas rencontré l'imam Malik. Donc on appelle ça mu'allaq. Il y a beaucoup, donc il y a des hadiths qui sont dans le sahih qui sont mu'allaq. Ou alors carrément il peut dire qala an-nabi sans chaîne de transmission. C'est-à-dire il coupe le début, il enlève, il ne cite pas le début de la chaîne de transmission. Donc normalement ça c'est un hadith da'if. Un hadith mu'allaq c'est faible. C'est pas, on l'accepte pas dans son authenticité puisqu'on n'a pas tous les rapporteurs. Mais en ce qui concerne sahih al-Bukhari, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, donc qui était un des grands, si ce n'est le plus grand muhaddith que la terre ait porté, il a fait une étude sur les mu'allaqat qui sont dans Sahih al-Bukhari, puisqu'il a écrit Fath al-Bari, le commentaire de Sahih al-Bukhari, et il a fait un chapitre dans l'introduction sur les mu'allaqat, c'est-à-dire ces hadiths-là quand ils sont dans le Bukhari. Et bon, il y a du détail. De façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que quand le Bukhari dit le prophète a dit, ou on a rapporté le prophète a dit, ou je ne sais plus quel genre de formule il a, c'est que le hadith il est authentique et on le trouve dans d'autres livres de hadith avec la chaîne complète, et il se trouve que le hadith il est authentique. Et quand il dit il a été rapporté ou on mentionne du prophète, alors là certains de ces hadiths là ils sont faibles. Donc c'est à dire il y a des hadiths faibles dans le Bukhari, mais c'est des hadiths qui sont justement mu'allaq, donc il a enlevé le début de la chaîne de transmission. Donc la question qu'on peut se demander, pourquoi le Bukhari il a mis des hadiths comme ça dans son sahih, alors que tout le sahih c'est le summum de l'authenticité, sahih al-Bukhari. L'imam Ibn Hajar il répond par, il y a beaucoup de réponses. Ça peut être parce que des fois le hadith il concerne le sujet, mais il remplit pas les conditions d'authenticité du reste des hadiths de sahih al-Bukhari. Alors il a quand même voulu le mettre pour attirer l'attention dessus. Mais pour attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas authentique comme les autres hadiths, il enlève la chaîne de transmission. C'est comme si pour te dire, attention, je te dis ce hadith, mais il n'est pas comme le reste des hadiths de mon livre. Et il ne remplit pas les conditions de mon livre. Mais je le mets quand même. Donc c'est souvent pour expliquer, c'est parce que le hadith il va servir. Des fois c'est pour aller plus vite. Parce que le hadith il est déjà cité dans un autre endroit du livre avec la chaîne complète. Alors là, il le répète sans la chaîne, par exemple, etc. Donc lui, il dit que le hadith, il est sahih. Il fait partie des mu'allaqat qui sont authentiques. Et il dit, dans l'explication des mots du hadith, il dit « as-saraf ». Il dit « ahsanu tafsirin lis-saraf annahu l'infaq fi ghayri ta'ati Allah ta'ala ». Il dit parmi les explications, la meilleure explication, c'est que « as-saraf », donc on peut traduire par l'excès ou le gâchis, c'est le fait de dépenser dans autre que l'obéissance d'Allah. وقال العيني الصرف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. Ici la parole de العيني, un autre savant qui dit الصرف, c'est le fait de dépenser dans ce qui est convenable, mais de dépenser en trop. Et التبذير, donc on va traduire aussi par gâchis, ça c'est le fait de dépenser dans ce qui ne convient pas déjà, c'est-à-dire dans ce qui est interdit. Donc il dit ما يؤخذ من الحديث. Je vous ai traduit le hadith. Ouais, je vous ai traduit. الله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرزق من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وغير ذلك من طيبات الحياة الدنيا ولم يحرم من ذلك إلا ما فيه مضرة على الدين أو على البدن أو على العقل أو العرض أو المال وهي الضروريات الخمس. Donc il dit Allah Ta'ala a rendu licite pour ses serviteurs les bonnes choses parmi les subsistances d'ici-bas. Dans la nourriture, dans les boissons, dans les vêtements, dans les habitations et dans les véhicules. Et il n'a interdit que ce qui est nuisible pour la religion ou pour le corps ou pour la raison ou pour l'honneur ou pour les ou pour le bien le, et les biens des gens et la fortune des gens. Il dit et ça c'est ad-daruriyat al-khams, c'est-à-dire les choses, les besoins essentiels, les cinq besoins essentiels, les cinq choses essentielles. Et les ulama ils disent quand on regarde la religion tout entière, elle protège ces cinq choses là. C'est la première, la plus haute, c'est la religion. Ensuite, le corps, c'est-à-dire la santé des gens, l'anfus. L'aql, la raison. Donc par exemple, pour la religion, c'est pour ça que il est légiféré, tout ce qui est légiféré envers celui qui, par exemple, qui se détourne de la religion, ou alors à celui qui répand des innovations, etc. La santé et la vie, c'est pour ça que celui qui tue autrui, il a une punition dans l'islam. Al-aql, la raison, c'est pour ça notamment que l'islam il interdit toutes les drogues, tous les alcools, etc. Al-ird, c'est l'honneur, c'est pour ça notamment que l'islam, par exemple, si une personne elle accuse une femme mariée et musulmane d'avoir fait l'adultère, si elle ramène pas avec elle quatre témoins qui ont vu tout ce qu'il faut voir, elle-même, elle doit être fouettée. Celle qui n'a pas ramené quatre personnes. Si elle en ramène deux, ben, les deux, ils vont être fouettés avec elle. Ça veut dire, et c'est pourquoi ça? Pour protéger l'honneur de cette femme. Donc regardez comment l'islam y a protégé la femme. T'as pas le droit d'accuser une femme comme ça à tort et à travers. Et après, ils voudraient nous faire imaginer que l'islam, ça a rabaissé la femme. Alors que l'islam, il fouette une personne parce qu'il accuse une femme d'avoir commis l'adultère, s'il ne ramène pas des témoins. Donc ça c'est pour protéger quoi? Pour protéger l'honneur. C'est pour ça aussi que l'islam il interdit le zina, la fornication, c'est pour protéger l'honneur des gens. Pour pas qu'il y ait des gens, c'est-à-dire qu'ils perdent leur honneur parce que peut-être ils connaissent même pas leurs parents, etc. etc. Et la dernière c'est l'argent. C'est pour ça qu'il est interdit de voler, etc. Donc c'est ça ad-daruriyat al-khams. Quand on regarde les interdits, ils sont à chaque fois faits pour protéger une de ces cinq choses-là. وهي في هذا الحديث وفي هذا الحديث الإباحة في أكل وشرب ولبس ما طاب من متع الحياة الدنيا المباحة. Donc ce hadith lui nous parle du fait qu'il est licite de manger, de boire et de s'habiller et de mettre ce qui est bon d'ici-bas. فلا يحرم نوع من الأنواع ولا جنس من الأجناس ولا قدر معين منها. Donc aucune sorte n'est interdite, aucune catégorie et aucune quantité. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Car Allah a dit dans la sourate Al-Baqara, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc ce verset c'est la base, et il y a d'autres versets semblables, pour dire que la base dans les choses d'ici-bas, c'est-à-dire les vêtements, les véhicules, le manger, le boire, etc., c'est licite. Il dit إنما المحرم من ذلك ما بلغ حد الإسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على الناس. Il dit ce qui est interdit c'est seulement ce qui atteint l'excès dans les dépenses et le gâchis, ou l'orgueil, ou le fait d'être supérieur aux autres. Fahada muharram, il dit ça c'est interdit. لأنه خروج عن حد الإباحة إلى الصرف puisque tu sors du caractère licite, tu te dépasses pour arriver au gâchis et à l'excès. قال تعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا. Et dans le verset, Allah dit mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. فالآية الكريمة أباحت الأكل ولم تحده إلا بصرف والصرف مجاوزة الحد المباح. Donc le verset, il a rendu licite de façon globale et générale le fait de manger et il ne l'a limité que par l'excès. Et l'excès, sarraf, c'est le fait de dépasser les limites dans ce qui est licite. Donc à la base c'est licite, mais toi tu dépasses. قال الشيخ عبد اللطيف البغدادي هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه. Donc il cite ici une parole d'un savant qui dit ce hadith il regroupe tous les mérites et les comportements à propos de la personne, comment elle doit se gérer elle-même. وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة. Et il nous montre comment gérer tout ce qui peut amener le bien à la personne et à son corps ici-bas et dans l'au-delà. فإن الصرف مضر بالجسد ومضر بالمعيشة. Car l'excès est mauvais pour le corps et il est mauvais pour la vie. ويؤدي إلى الإتلاف. Et il amène à gâcher les choses, c'est-à-dire que ce soit le corps ou les choses en elles-mêmes. C'est-à-dire l'itlaf, c'est entre guillemets, c'est comme la perte. فيضر بالنفس. Et donc il est mauvais pour l'âme et pour la personne. إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال. Car l'âme, elle suit le corps dans ces situations. والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب. Et aussi, l'orgueil aussi, elle est mauvaise et elle nuit à l'âme, puisqu'elle va lui donner l'ajab, c'est-à-dire elle est contente d'elle-même, elle est fascinée par elle-même. Et dans l'au-delà, elle lui sera nuisible parce qu'elle va lui ramener un péché. Et elle est nuisible ici-bas parce qu'elle lui ramène la haine des gens. C'est-à-dire la personne qui est orgueilleuse, les gens ça va amener à ce que les gens la détestent. Donc c'est mauvais pour elle, ici-bas, dans l'au-delà, pour son corps et pour son âme. Donc regardez, en fait, de façon générale, le hadith, il nous parle du comportement à avoir dans comment on gère notre vie habituelle, dans les choses d'ici-bas. Donc le licite, il est nombreux. Il est plus nombreux que l'illicite. Mais le licite, il ne faut pas le dépasser au point d'arriver à l'excès ou au gâchis. Et comme il dit ici, l'excès et le gâchis, ça c'est mauvais pour l'âme et pour le corps. Ensuite il dit Babul birri wassila. Là il parle, c'est un nouveau chapitre, enfin un sous-chapitre. C'est sur el bir, c'est-à-dire l'excellence envers les gens, la bienfaisance. Es-sila, c'est-à-dire les liens de parenté. Donc le premier hadith il dit An Abi Hurayrata radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a fi atharihi. Donc ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aimerait que ses subsistances soient élargies et que sa vie soit plus longue alors qu'il entretienne ses liens de parenté. Donc il dit dans l'explication qala ta'ala walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ici, c'est un verset qui dit « Ceux qui relient ce qu'Allah a ordonné de relier et qui craignent leur Seigneur et qui craignent le mauvais compte, c'est-à-dire le compte du jour du jugement. » قال القرطبي « ظاهرون في صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. » القرطبي, donc ce qui a écrit un livre sur le tafsir, il dit ce qui est apparent dans ce verset, c'est que ça parle des liens de parenté. Quand il dit ce qui lie ce que Allah a ordonné de lier. Et c'est la parole de Qatada, l'élève de Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire que ce verset parle des liens de parenté. Et c'est la parole de la plupart de ceux qui ont interprété le Coran. Il dit, mais malgré ça, il englobe aussi tous les actes d'adoration envers Allah. Wa ja'a fil Bukhari wa Muslimin min hadith Aisha radiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, Ar-Rahimu mu'allaqatun bil arshi taqul, Man wasalani wasalahullah. Et dans les deux sahih, le hadith il dit le lien de parenté, donc Ar-Rahim, est accroché au trône d'Allah. Et elle dit celui qui m'entretient, wasalani, ça veut dire qui me relie, Allah le relie, c'est-à-dire il l'entretient. le lien avec lui et il ne le coupe pas. Silatul rahimi sababun qawiyun ja'alahu Allah fi si'ati rizqil wasil wa barakatin fi atharihi wa tuli umrihi liktisab al a'mal as salihah wa tazawwud min dar al manar ila dar al maqar. Il dit ici, le fait de lier les liens de parenté et de ne pas couper les liens de parenté, c'est une cause très forte qu'Allah a mis pour que la personne elle ait plus de richesse. Et quelle est la baraka, c'est-à-dire la bénédiction, dans sa vie. Et pour que sa vie elle soit plus longue. Et que grâce à ça, grâce au fait que sa vie soit plus longue, il va acquérir plus de bonnes actions et il pourra se préparer plus et faire plus de bagages pour la vie future. قال ابن علان في شرح رياض الصالحين قال ابن التين ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ici il cite la parole d'un savant qui dit, ce hadith il contredit en apparence la parole d'Allah où Allah dit il ne retarde pas ni ne devance leur délai. C'est-à-dire, si Allah t'a écrit de vivre jusqu'à tel âge, tu peux ni rajouter ni enlever. Or, dans le hadith, il dit, celui qui aimerait qu'on lui rallonge sa vie, qu'il relie ses liens de parenté. Donc il dit, apparemment, ça se contredit. Il dit, on peut regrouper ces deux textes de deux façons. Al-awwal, an tuhmal az-ziyadatu ala annaha kinayatun anil barakati fil umri bisabab at-tawfiq ila ta'atillah. وعمارة وقته بما ينفعه ويقربه من مولاه تعالى. Il dit, la première façon, c'est de dire que quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui rajoute dans sa vie, en fait c'est une kinaya, entre guillemets, c'est comme une métaphore, c'est une image pour dire qu'en fait Allah il va lui rajouter de la bénédiction, la baraka dans sa vie, et Allah il va lui donner le succès et le faciliter à l'obéissance d'Allah et lui faciliter à ce qu'il occupe tout son temps parce qu'il lui est utile et se rapprocher d'Allah. Donc c'est-à-dire, il a dit, celui qui veut qu'on lui rajoute dans sa vie, en fait, lui ce qu'il dit ici, ça ne veut pas dire qu'on va lui rajouter dans sa vie, ça veut dire que Allah il va lui faire sa vie avec plus de baraka, il va plus utiliser son temps dans le bien et tout. Donc ça c'est une interprétation. وَيُقَوِّي هَذَا مَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِشْتَكَى تَقَاصُرَ أَعْمَارِ أُمَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْمَارِ مَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَمْ فَأُعْطِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Et dit, ce qui renforce cette interprétation-là, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est plaint à Allah de la petite durée des vies de sa communauté. C'est-à-dire, les gens de sa communauté ils vivent peu par rapport aux gens d'avant. Et Allah, il lui a donné Laylat al-Qadr. Donc, une nuit qui est équivalente à 1000 mois, pour qu'ils puissent faire des actes comme s'ils avaient vécu 1000 mois dedans. Al-Thani, donc c'est-à-dire la première façon de regrouper ces deux textes, c'est-à-dire le hadith, en fait, il ne veut pas vraiment dire qu'on va lui rallonger sa vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aura de la baraka dans sa vie. La deuxième, c'est de laisser le rajout qui est cité dans le hadith tel quel. Ce n'est pas une image, c'est réel. C'est-à-dire, on va lui rallonger sa vie par rapport à ce qui est écrit dans, entre les mains de l'ange qui vient s'occuper de lui quand il est encore dans le ventre de sa mère. Mathalan, il dit un exemple. Kutiba lahu in ata'a fulan fa 'umruhu kadha wa illa fa 'umruhu kadha. Par exemple, dans la tablette que l'ange il a, il est écrit un tel, s'il est obéissant à Allah, il vivra autant, s'il n'est pas obéissant, il vivra autant. Donc il y a deux délais. والله سبحانه وتعالى عالم بالواقع منهما. Et Allah lui sait déjà s'il va être obéissant ou s'il sera pas obéissant. والأجل المحتوم في الآية على ما في علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تغير فيه. Et le délai qui est cité dans le verset, comme quoi Allah dit ils ne peuvent pas changer leur délai, ça c'est le délai qui est dans la science d'Allah. Celui-là il change pas. C'est-à-dire le délai qui est dans l'éternel, Allah il savait déjà et ça change pas. Donc c'est ça qui est voulu dans le verset. Et dans le hadith, quand il dit on lui rajoute dans son délai, par rapport au délai que l'ange il a dans sa tablette avant de prononcer pour le bébé. Wa ila dhalika al-ishara bi qawli ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Et c'est ce qu'indique la parole d'Allah, Allah efface ce qu'il veut et affirme ce qu'il veut. Et auprès de lui, il y a Ummul Kitab, la mère du livre, c'est-à-dire la table gardée. فالحديث فيه ما أشارت إليه أول آية من الأجل المعلق وقوله تعالى وعنده أم الكتاب أشار به للعلم الإلهي الذي لا تغير فيه البتة ويعبر عنه بالقضاء المحتوم وعن الأول بالقضاء المعلق. Donc le hadith il parle de ce qu'il y a au début du verset, c'est-à-dire al-ajal al-mu'allaq, le délai qui est mu'allaq, il est suspendu, c'est-à-dire il peut changer. Et la parole d'Allah, auprès de lui, il y a la mère du livre. Ça indique la science d'Allah, dans laquelle il n'y a pas de changement. Et on appelle ça Al-Qada Al-Mahtoum, c'est-à-dire le destin qui est scellé, qui ne va pas changer. Et l'autre, on l'appelle le Al-Qada Al-Mu'allaq, c'est-à-dire le jugement ou le destin qui est suspendu, qui peut changer. Ça, c'est celui que connaissent déjà les anges. Allah, il leur dit, il va arriver ça, mais après, Allah, il peut changer. Mais ce qu'Allah, il allait changer, lui, il le savait déjà. Ça ne change pas. La science d'Allah ne change pas. والواجه الأول أليق بلفظ حديث الباب فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. Il dit ici que la première interprétation, donc c'est toujours le même savant qui est cité, Ibn Tin, que c'est la première interprétation qui est plus proche du hadith. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas vraiment sa vie qui va être allongée, mais c'est simplement qu'il y aura plus de baraka dans sa vie.
وقال الطيبي الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق.
Et il cite la parole de Taïbi, un autre savant qui a aussi écrit un charh sur des hadiths, qui dit aussi que la première interprétation pour lui elle est plus forte.
وأرى أحسن من هذين القولين.
Et Cheikh Abdullah al-Bassam il dit, moi je vois une opinion, une façon de regrouper ces deux textes qui est mieux que ces deux interprétations-là.
بأن الله تعالى قدر الأسباب والمسببات.
C'est qu'Allah a destiné les causes et les conséquences.
وأن الله تعالى إذا قدر إطالة عمر الإنسان هيأ له من الأسباب الحسية والمعنوية ما تكون سببا لطول عمره والنسء في أجله.
Il dit, Allah donc il a créé les causes et les conséquences. Donc si Allah destine à une personne d'avoir une longue vie, il lui a aussi créé les causes et il va lui faciliter les causes, des causes concrètes, matérielles et abstraites qui vont lui faciliter d'avoir une longue vie. C'est-à-dire que Allah il sait que tu vas entretenir tes liens de parenté et il a mis comme conséquence à ça que tu auras une longue vie. Donc tout ça c'est destiné. Donc le fait que ta vie elle soit longue, elle était destinée, mais la cause qui a fait ça, ça n'est qu'une conséquence. La cause c'est quoi? C'est que t'as été pieux et t'as entretenu tes liens de parenté, mais ça aussi c'est déjà destiné, Allah il le savait. Donc les deux ils sont destinés, donc il n'y a pas vraiment un truc qui change en fait, simplement c'est une cause et une conséquence.
وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي.
Il dit, et c'est ce qu'ont dit certains authentificateurs comme عبد الرحمن السعدي.
حيث قال عند شرح هذا الحديث فيه حث على صلة الرحم وبيان أنها كما هي موجبة لرضا الله تعالى فإنها موجبة أيضا للثواب العاجل بحصول أحب الأمور إلى العبد وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه.
Il dit, donc Cheikh Abdelrahman al-Sa'di, quand il a expliqué ce hadith, il a dit, ce hadith encourage à entretenir les liens de parenté et nous montre que, comme les liens de parenté impliquent la satisfaction d'Allah, ils impliquent aussi une récompense fil-ajil, c'est-à-dire une récompense précipitée, c'est-à-dire ici-bas. Cette récompense, c'est que la chose que la personne préfère, elle va lui arriver. C'est quoi cette chose? C'est qu'il aura, on lui élargit ses richesses. Et c'est aussi une cause, c'est-à-dire le fait d'entretenir les liens de parenté, pour que la vie soit longue. Il dit, et ça c'est réel, c'est pas une métaphore. Car Allah a créé les causes et les conséquences. Et Allah a mis à chaque chose qui est recherchée une cause et un chemin pour y arriver.
وهذا جار على الأصل الكبير وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل.
Et ça c'est conformément à la grande base qui dit que selon, conformément à la sagesse d'Allah, que la récompense est du même genre que l'action.
فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور وصل الله عمره ووصل رزقه.
Donc comme la personne a entretenu et relié ses liens de parenté avec le bien, la bienfaisance de diverses façons, et il a fait entrer dans leur cœur le bonheur, dans le cœur de ses proches, Allah a entretenu sa vie, c'est-à-dire il va lui relier et lui entretenir sa vie et sa richesse, c'est-à-dire prolonger sa vie et élargir ses richesses. Donc c'est du même genre, la récompense elle est du même genre que l'action.
وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك السبب الجليل.
Et Allah va lui ouvrir des portes dans sa subsistance et ses bénédictions, des choses qui ne lui seraient pas arrivées s'il n'avait pas fait cette cause-là.
وكما أن طيب الهواء وجلب الغذاء واستعمال الأشياء المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر فكذلك صلة الرحم جعله الله سببا ربانيا.
Donc écoutez bien ce qu'il dit ici, ça nous fait comprendre tout de suite. Il dit, comme le fait que l'air soit bon, l'air dans lequel tu vis, et le fait de manger, et le fait de prendre des choses qui renforcent le corps, tout ça, ça prolonge la vie. Tout ce qui aide à renforcer ton corps et ton cœur, ça prolonge la vie, c'est une cause. Eh bien le fait d'entretenir tes liens de parenté, c'est une cause aussi. Or les gens, ils se disent jamais... le fait que, par exemple, je mange bien, j'ai une bonne santé, ça va pas rallonger. Comment ça peut rallonger? Il se pose pas la question. Mais sur le lien de parenté, il se pose la question. Parce que c'est plus loin. On le comprend moins. C'est moins proche de nous. C'est moins concret. Mais, en fait, les deux, c'est pareil. Il dit, comme le fait de respirer du bon air, bien manger, prendre des choses qui renforcent ton corps et ton cœur, c'est une cause pour avoir une longue vie, eh ben, le fait d'entretenir tes liens de parenté aussi. Mais ça, c'est une cause ربانية divine, c'est-à-dire elle vient d'Allah directement.
فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان أمور محسوسة وأمور ربانية.
Car les causes par lesquelles on arrive à tout ce qu'on aime ici-bas, elles sont de deux sortes. Il y a des causes concrètes, matérielles, et des causes divines qui viennent d'Allah.
قدرها من هو على كل شيء قدير.
Celui qui les a destinées, c'est celui qui est capable de et qui a puissance sur toute chose.
والذي جميع الأسباب منقادة لمشيئتي.
Et celui dont toutes les causes sont soumises à sa volonté.
وفي الحديث دليل على أن قصد العامل يترتب على عمله من ثواب الدنيا ولا يضره إذا كان القصد وجه الله تعالى والدار الآخرة فإن الله بحكمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى والله موافق.
Il dit, ce hadith il prouve aussi que si la personne, quand elle fait un acte, elle a aussi dans son intention la récompense d'ici-bas qu'Allah va lui donner, il n'y a pas de mal, à condition que son action elle la fasse pour la face d'Allah et pour la demeure future. C'est-à-dire ce qu'il veut dire ici. Par exemple, une personne, elle entend ce hadith. Ça va la pousser à entretenir ses liens de parenté. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ça va élargir sa richesse et entretenir et rallonger sa vie. Donc le fait que dans ton acte, tu veux ça, parce que tu sais que si tu fais ça, Allah, il va rallonger ta vie et multiplier tes biens, eh ben ça fait pas rentrer ton action dans le shirk. Dans le shirk al-asghar, c'est-à-dire dans le fait de vouloir par une adoration ad-dunya. Ça ne nuit pas à ton adoration. Le fait que tu es à la fois la niya d'obéir à Allah et à la fois de bénéficier des récompenses qu'Allah il a mis ici-bas pour ceux qui font ce genre d'action.
Il dit car Allah, par sa sagesse, a mis des récompenses précipitées et des récompenses futures.
Et il les a toutes promis, à la fois les récompenses précipitées et les récompenses futures, il les a promis à ceux qui agissent. Donc il dit, donc le croyant sincère, quand il agit et quand il délaisse une chose, il le fait sincèrement pour Allah et il peut céder de tout ce qui encourage aux actions, c'est-à-dire les récompenses qui sont promises ici-bas. Il peut céder de ces choses-là pour agir. C'est-à-dire, par exemple, il dit, et il se rappelle, par rapport à ce hadith en l'occurrence, avant d'aller visiter un proche, il se rappelle que le prophète il a dit que celui qui le fait, sallallahu alayhi wa sallam, on lui augmente sa richesse. Donc ça va l'encourager encore plus. Il n'y a pas de mal et c'est un bien.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه.
Ici le hadith il dit n'entre pas au paradis un qatir. Qatir c'est-à-dire celui qui coupe. Ce qui est voulu ici c'est celui qui coupe les liens de parenté. Ça c'est dans les deux sahih.
وقال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
Dans sourate Al-Baqarah Allah dit il coupe ce qu'Allah a ordonné de relier et sème la corruption sur terre, voilà les perdants.
وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
Et dans l'autre verset Allah dit si vous vous détournez vous risquez de semer la corruption sur terre et de couper vos liens de parenté, voilà ce qu'Allah a maudit et qu'il a rendu sourd et aveugle et dont il a aveuglé les regards. Ça c'est dans la sourate Muhammad.
وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قال بلى. قال فذلك لك.
Dans ce hadith, qui est dans les deux sahihs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahim, c'est-à-dire le lien de parenté s'est levé, et a dit voilà, telle est la position, al-maqam, de celui qui cherche refuge auprès de toi contre le fait de couper les liens de parenté. C'est-à-dire le lien de parenté a dit ça à Allah. Et Allah a dit oui, n'es-tu pas satisfait que je relie celui qui te relie, c'est-à-dire je garde les liens entre guillemets. Wasala, en fait, c'est un mot, il y a trop de signification dedans, ça dépend du contexte. On peut dire, entre guillemets, pour traduire littéralement, que je lis celui qui te relie et que je coupe celui qui te coupe. Et le lien de parenté a répondu, oui. Et Allah lui a répondu, ben voilà, c'est ce que je t'accorde. C'est-à-dire, je t'accorde ce privilège, c'est que celui qui te coupe, je coupe avec lui. Et celui qui t'entretient, j'entretiens la relation avec lui.
واختلف في الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها الى ثلاثه اقوال.
Et les ulama ont divergé sur le lien de parenté qu'il est obligatoire d'entretenir et qu'il est interdit haram de couper avec trois opinions.
احدها انها الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يصح النكاح بينهما فعلى هذا لا يدخل اولاد الاعمام والعمات.
Il dit, la première avis, c'est le lien de parenté qui interdit le mariage. C'est-à-dire, si l'un c'est un homme et l'autre c'est une femme, ils ne peuvent pas se marier. Donc, si on suit cette opinion-là, les cousins et les cousines n'y rentrent pas dans le lien de parenté qui est obligé d'être entretenu. Ni les oncles et les tantes du côté de la mère. Ni les cousins qui sont du côté du père et les cousines, ni les cousins et les cousines qui sont du côté de la mère. C'est-à-dire parce qu'il y a une différence en arabe et aussi dans l'islam entre l'oncle qui est le frère de ton père ou la tante qui est la mère, la sœur de ton père. Donc ça c'est l'am et l'amma. Et de l'autre côté, l'oncle ou la tante qui est du côté de ta mère. Ça c'est le khal ou al khala. Donc en tout cas, en français c'est pareil, leurs enfants c'est tous des cousins. Ça rentre pas dans le lien de parenté si on suit cette opinion là.
واحتج اصحاب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح فإنه لم يحرم إلا خشية القطيعة وما دام أنه لم يحرم فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها.
Leur preuve, c'est-à-dire leur argument, c'est qu'il est interdit dans l'islam de se marier avec une femme et sa tante maternelle ou alors sa tante paternelle. C'est-à-dire tu peux pas prendre deux femmes et une des deux c'est la tante de l'autre. Il dit et ça c'est interdit parce que on craint que ça coupe le lien de parenté.
Wa madama annahu lam yahrum fa laysa hunaka rahimun yukhsha min qati'atiha.
Franchement, j'ai pas compris leur argument du tout. Attends, je lis. Donc là, franchement, j'ai pas compris l'explication. الثاني أنه من كان بينهما توارث واحتج هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك فالحث هنا على الأدنى فالأدنى والقرابة الموالية هي الوراثة هي الوراثة. La deuxième opinion c'est ceux entre qui il y a un héritage. Et ils ont comme argument un hadith. الثالث أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث. Troisièmement, la troisième opinion, c'est que c'est les liens de parenté de façon générale, sans regarder est-ce que tu peux te marier avec la personne ou pas, et sans regarder est-ce qu'il hérite de toi ou pas, ou est-ce que toi tu hérites de lui. وهذا قول وجيه ولكنها تختلف الصلة والبر بحسب القرب والبعد بينهم وبالاختلاف وباختلاف القدرة والحاجة. Il dit cette troisième opinion, c'est-à-dire de ne pas considérer ni l'héritage ni le droit ou l'interdiction du mariage, il dit c'est une opinion, c'est-à-dire c'est une bonne opinion forte. Il dit mais l'entretien des liens de parenté diverge selon, et comment tu vas te comporter avec eux et la bienfaisance que tu as à faire envers eux, ça diverge selon la proximité ou alors la, comment on dit, la loin, je sais pas, al-bu'd, l'éloignement, barakallahu fik. Selon la proximité ou l'éloignement que tu as avec cette personne. C'est-à-dire ça ne va pas être la même, le même entretien et la même bienfaisance, selon si elle est proche ou loin de toi. Et aussi selon la capacité et le besoin. Thalithan. Donc il y a quelqu'un sur internet qui me dit de... C'est quoi ? Définir. La définition précise dans la langue arabe et dans la législation d'entretenir et de couper les liens de parenté. Il faut les appeler chaque mois. Ah, précise dans le genre, est-ce qu'il faut appeler chaque mois, est-ce qu'il faut... Moi, le muhim, c'est que je vais lire ce qu'il y a dans le livre, c'est tout, je sais pas. Moi, je lis ce qu'il y a dans le livre, ça y est. Est-ce que je peux expliquer ? Ben, je l'explique. Mais je pense que déjà, ça répond, quoi. Pour ce qui est de qui sont les liens de parenté, ben là il a répondu, il y a trois opinions. Et pour lui, la troisième c'est la meilleure, c'est-à-dire que c'est de façon générale les parents. Donc ça peut être les cousins, les tantes, les oncles, cousins éloignés, tant que c'est de la famille avec toi. Et après, comment ? On va voir s'il en parle ici. C'est-à-dire comment, quel est le minimum à faire. Donc il dit ici As-silatul haqiqiyya. والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك وتبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة ونحو ذلك فهذا يسمى مكافئا. Il dit le fait as-sila, le fait d'entretenir le lien de parenté et le fait d'être bienfaisant, il dit c'est pas dans, avec ceux de tes proches entre qui habituellement il y a déjà de la bienfaisance et de la visite, etc. Il dit ça s'appelle mukafi. C'est-à-dire tu ne fais que lui rendre quelque chose de normal. C'est-à-dire il te visite, tu le visites. Ça c'est quelque chose de normal. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Donc il dit, le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, pour argumenter de ça, il dit al-wasil, c'est-à-dire celui qui lie le lien de parenté, c'est pas al-mukafi. C'est-à-dire celui qui fait comme on lui a fait. Il dit al-wasil, celui qui lie le lien de parenté, c'est celui qui, lorsqu'on coupe le lien de parenté, lui, il la relie. Donc là, peut-être, ça répond à la question du frère, inshallah, sur internet. فهذا يدل على أن الوصل الممدوح حقا هي الصلة في القريب الذي قطعك. فهذه هي الصلة الكاملة والأولى pardon, حميدة أيضا. Il dit ce qui montre ici que al-wasl, c'est-à-dire le fait de lier les liens de parenté qui est voulu et qui est loué dans le hadith, c'est le fait de reprendre relation et de renouer avec celui qui a coupé avec toi. Il dit c'est ça, as-sila, complète et parfaite. Il dit même si la première, c'est-à-dire le mukafa'a, elle est bien aussi, elle est louable aussi. فالدرجات مع الأقارب ثلاث. Il dit donc il y a trois degrés avec les proches. Wasil, wasil c'est-à-dire renouer avec celui qui renoue. Mukafi c'est celui qui fait comme on lui a fait, c'est-à-dire comme tout le monde y fait quoi, à peu près dans la vie quotidienne. t'as tes cousins, t'as tes tantes, puis généralement vous visitez, etc. Donc là, tes mukaf, ils t'ont pas coupé, tu les as pas coupés. Et qatir, c'est celui qui a coupé.
جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
Ici, c'est un sahih muslim, le hadith où un homme, il a dit au messager d'Allah, j'ai des proches avec qui j'entretiens le lien de parenté et eux, ils le coupent. Et je suis bon envers eux et eux sont mauvais envers moi. Wa ahlumu ilayhim. Halim, c'est-à-dire je suis clément avec eux, je suis doux avec eux et eux, ils sont yajhaloun. Yajhaloun, il faut savoir que jahl, des fois, ça peut être l'ignorance dans le sens ne pas connaître une chose. Et jahl aussi, c'est aussi, en arabe, il y a deux sens. Il y a le jahl dans le sens je ne sais pas. Et il y a le djihad dans le sens je me comporte comme un ignorant. Donc tu peux très bien connaître, mais tu agis pas par exemple. Donc ça, là, tu es aussi un djahil. C'est le contraire de halim. Ce n'est pas le contraire de alim. Donc il y a le djihad qui est le contraire de l'aim. C'est-à-dire l'ignorance qui est le contraire de la science. Ça, c'est le fait de ne pas savoir. Et il y a le djihad qui est le contraire de l'hilm. De la douceur et de la clémence. C'est le fait d'être rude, de se comporter sans patience. Et d'être ingrat, d'être ignorant. Donc il dit, eux ils faisaient ça avec lui. Yajhaluna alayya, c'est-à-dire on pourrait traduire par ils se comportent avec moi comme des ignorants. Et il lui a dit, si tu fais ça, c'est comme si tu leur faisais boire de la cendre. Il dit, et Allah sera toujours avec toi tant que tu es sur cette situation. C'est-à-dire Allah sera toujours à ton aide tant que tu continues à faire comme ça.
قال الإمام النووي في معنى الحديث إنك بإحسانك إليهم تحزنهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم.
Il cite ici la parole de l'imam Nawawi rahimahullah dans l'explication de ce hadith. Il dit, par ta bienfaisance envers eux, tu les attristes et tu les rends eux-mêmes, tu les diminues à leurs propres yeux, parce que tu fais beaucoup de bienfaisance envers eux alors qu'eux ils se comportent mal envers toi.
فهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل والمل هو الرماد الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج.
Il dit donc, ils sont à leurs propres yeux, ils sont vraiment très bas. C'est-à-dire, ils se méprisent eux-mêmes. Et il dit كمن يسف المل والمل هو الرماد الذي يحمى. Comme quelqu'un qui boirait de la cendre. En fait, le mal, c'est une sorte de cendre qu'on utilise. Ici, il explique pour chauffer le pain. Donc, on passe au hadith suivant. Il dit... Ça fait combien de temps, là pour... Ok.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه.
Ça c'est dans les deux صحيح. Le hadith il dit, Allah vous a interdit عقوق الأمهات, c'est-à-dire la désobéissance envers les mamans, les mères, ووأد البنات, et d'enterrer les filles, ومنع وهات. منع, c'est-à-dire منع, c'est de retenir. وهات, هات ça veut dire donne. Man'an wahat, ça veut dire toi tu donnes pas, tu retiens, t'es avare, mais par contre toi tu demandes. Man'an wahat, wa kariha lakum, et il déteste pour vous. Qila wa qal, il a été dit et il a dit, c'est-à-dire les ont dit. Wa kathrat as-su'al, et le fait de poser beaucoup de questions. Wa ida'at al-mal, et le fait de gâcher les biens, c'est-à-dire de dépenser l'argent à tort et à travers. Ça c'est dans les deux sahih. Donc il dit dans l'explication,
الحديث فيه جملة من الأحكام مما حرمه الله تعالى.
Donc il y a plusieurs règles qu'Allah a interdites ici.
الأول عقوق الأمهات وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
Donc la première c'est la désobéissance envers les mères. Et Allah a dit, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents et vers moi et le devenir. Et dans un autre verset, nous avons ordonné à l'être humain d'être bienfaisant envers ses parents. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك dans les deux sahihs et hadith où un homme a dit ô messager d'Allah qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie il lui a dit c'est ta mère ensuite il a dit après c'est qui il lui a dit c'est ta mère et ensuite c'est qui il lui a dit c'est ta mère c'est-à-dire trois fois il lui a dit ensuite c'est qui il lui a dit ton père وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئك بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين dans un hadith le prophète a dit vous informerai-je des plus grands des péchés l'associationnisme c'est-à-dire le fait d'associer à Allah et la désobéissance aux parents والأحاديث في الباب كثيرة et les hadiths dans ce chapitre sont très nombreux. Plus tard, on va reparler de la désobéissance des parents, puisqu'il y a beaucoup de questions qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire, quand est-ce que j'ai le droit de leur désobéir? Bon, en ce qui concerne les choses de la religion, c'est clair que tu dois obéir à Allah et pas obéir à tes parents, mais il y a des choses qui sont plus ambiguës. Surtout, par exemple, en ce qui concerne le mariage pour les garçons, des trucs comme, ou alors qu'est-ce que tu vas faire comme études, etc. Donc, Inch'Allah, ça va venir par la suite. Ensuite, il dit Fani wa adul banat. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وخص البنات لأنها عادة جاهلية. La deuxième c'est le fait d'enterrer les filles pendant qu'elles sont encore vivantes. Donc il cite le verset où Allah dit quand la fille enterrée vivante sera questionnée pour quel péché elle a été tuée. C'est-à-dire qu'elle était innocente. Et Allah dit aussi, non, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui subvenons à vos besoins, ainsi qu'à eux-mêmes. Et le fait de les tuer est un grand péché. Et ici, il dit, dans les versets, Allah il a parlé des filles, ou dans le hadith plutôt, il a parlé des filles, parce que c'était l'habitude des gens avant l'islam. C'est qu'ils tuaient leurs filles vivantes. Pourquoi ils faisaient ça? Soit par peur de pauvreté, donc c'est-à-dire pour ne pas avoir une bouche à nourrir en plus, ou alors... c'est-à-dire parce qu'ils voulaient juste des garçons. Parce que c'est avec des garçons que la famille elle sera plus forte et ils peuvent les utiliser pour travailler, pour les champs, pour la chasse, etc. Alors qu'une fille, non, ils peuvent pas. Donc ils tuaient les filles à cause de ça. Et ça, on le retrouve dans les pays, comme par exemple en Chine. En Chine, ils interdisent d'avoir plus d'un enfant. Et il faut savoir que beaucoup, surtout dans les campagnes, et ils se plaignent du fait que les gens ils tuent leurs filles vivantes. Parce que comme ils ont droit qu'à un enfant... Et ils sont paysans, donc ils voudraient avoir un garçon pour les aider, alors quand ils ont une fille, ils la tuent. Et c'est sûr que ça va ramener des problèmes démographiques après, parce qu'il y aura trop de garçons pour pas assez de filles.
C'est aujourd'hui, ça?
Ouais, à notre époque, ouais. Ça a été en Chine, t'as pas le droit d'avoir plus d'un enfant.
الثالث من عنوهت أي يمنع الحقوق الواجبة عليه من الزكاة والنفقات الواجبة ويستكثر من جمع الأموال التي لا تحل له من حقوق الناس يحتال عليها بالطرق المحرمة. Après il a dit la troisième man'an wahad, c'est-à-dire il retient yamna' les droits qui sont obligatoires sur lui, c'est-à-dire il ne donne pas la zakat ou alors il ne dépense pas les dépenses qui sont obligatoires pour lui comme pour sa femme et ses enfants. Par contre il cherche à acquérir les biens des autres qui ne lui sont pas licites et il cherche à prendre sur le droit des autres avec différentes yahtal, c'est-à-dire ils cherchent des ruses interdites pour arriver à avoir l'argent des gens. Alors que lui-même, il ne veut pas lâcher ce qu'il devrait lâcher, ni la zakat, ni l'argent pour sa femme, pour ses enfants, c'est-à-dire ce qui lui est obligatoire de dépenser, il ne veut pas le dépenser. Par contre, lui, il essaye d'avoir l'argent d'autrui par des moyens illicites et par des ruses.
قال الحافظ الحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق. Donc Ibn Hajar il dit, pour résumer en fait, ce qu'on conclut de cette interdiction c'est de retenir ce que la personne a été ordonnée de donner et de chercher ce que la personne ne mérite pas.
الرابع الرابع كره لكم قيل وقال.
La quatrième, c'est « Il déteste pour vous, on a dit et il a dit », c'est-à-dire les ont dit. المراد بهذا أن يكون مشيعا للأخبار التي لم يتحققها ولا علاقة له فيها. مثل هذا يكثر زلله وخطأه، وهو مناف لخلق الإسلام الموصوف بقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc, il dit, ce qui est voulu par là, c'est de répandre les informations et les histoires dont il ne s'est pas assuré. C'est-à-dire, il ne s'est pas assuré de l'authenticité et la véracité de ces histoires et de ces informations, et qui n'ont pas de relation avec lui. C'est-à-dire, ça ne le regarde même pas. Il dit, celui qui fait ça, il va beaucoup glisser et se tromper. Et c'est contraire au comportement de l'islam que le prophète a décrit en disant, sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de l'excellent islam ou du bon islam de la personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas.
Al-Khamis, kariha lakum kathrat al-su'al. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
La cinquième, c'est il a dit, il déteste que vous questionnez beaucoup. Et dans le verset, Allah dit, ô vous qui croyez, ne posez pas des questions à propos de choses qui, si elles vous sont dévoilées, elles vous nuiront.
وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم.
Dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman qui porte le plus grand crime, c'est celui qui pose une question à propos d'une chose qui n'était pas interdite et qui devient interdite à cause de sa question. C'est-à-dire, ça c'est à l'époque du prophète où il y avait la révélation.
قال ابن علان في شرح رياض الصالحين الأولى حمل السؤال على ما يعم المسائل المشكلات والمعضلات من غير ضرورة وعن أخبار الناس وحوادث الزمان وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله فقد يكره ذلك.
Donc ici il cite une parole d'un savant dans l'explication de Riyad al-Salihin qui dit le mieux c'est d'expliquer al-su'al ici la question par le fait de poser des questions sur des questions problématiques et compliquées sans en avoir besoin, ou alors de questionner sur les informations et sur les gens akhbar an-nas, ou alors sur ce qui s'est passé, ou alors de questionner une personne en particulier sur ses choses personnelles. Et dit ça peut être détestable.
وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه من الخطأ.
Il dit, il a été rapporté de plusieurs parmi les salaf qui détestaient exagérer dans les questions et se poser des questions sur des choses qui peuvent pas arriver ou qui n'arrivent que très rarement, puisque c'est de l'exagération et ça va amener à parler avec un dhan, c'est-à-dire tu ne parles pas avec la certitude mais tu parles avec ce que tu penses et ça va amener aux erreurs.
As-sadis kariha lakum ida'at al-mal wal murad bidhalik infaquhu fi ghayri wajhi ma'dhun fihi shar'an sawa'an akana ad-diniyya aw dunyawiyya.
Sixièmement, il a dit, il déteste pour vous que vous gâchiez votre argent ou vos biens. Ce qui veut dire, c'est de ne pas le dépenser dans ce qui est permis dans la religion, que ce soit dans les dépenses d'ici-bas ou les dépenses qui visent l'au-delà.
وَالْمَنْعُ مِنْ إِضَاعَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَفِي تَبْذِيرِهِ تَفْوِيتٌ لِتِلْكَ الْمَصَالِحِ.
Et Allah a mis cet argent pour subvenir aux besoins et à ce qui est bon pour les personnes. Donc dans le fait de le dépenser à tort et à travers, il y a un mépris, et tu annules cette sagesse, c'est-à-dire pour laquelle Allah a créé cet argent.
قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع.
Il dit pour finir, les ulama ont divisé le fait de dépenser en trois sortes.
الأول محرم وهو أن ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعا.
La première c'est المحرم, l'interdit, c'est de dépenser l'argent dans ce qui est interdit dans la religion.
الثاني مستحب وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة الإعانة على نشر دين الله تعالى وإعلاء كلمته والنفقات المستحبات.
Deuxièmement c'est les dépenses qui sont demandées et conseillées et préférables, c'est de dépenser dans l'obéissance et dans le bien et dans le fait de répandre la religion d'Allah et toutes les dépenses qui sont préférables.
النفقات المباحة وهي منقسمة إلى قسمين.
La troisième sorte, elle se divise en elle-même en deux sortes. Ce sont les dépenses licites.
أحدهما على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله وحاله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف فهو جائز.
La première sorte, c'est de dépenser conformément à la situation de la personne et conformément à sa fortune. Il dit ça, c'est pas du gâchis ni de l'excès et c'est permis. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, c'est que l'islam, de façon générale, il permet à la personne de dépenser conformément, et elle demande même de dépenser à la personne de dépenser conformément à sa situation. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal si la personne elle est riche, qu'elle achète une belle voiture, qu'elle ait une belle maison, etc. Ça, c'est pas considéré comme de l'excès, parce que c'est dépensé conformément à sa situation.
الثاني أن ينفق فيما لا يليق به عرفا فالجمهور على أنه إسراف.
La deuxième sorte, c'est de dépenser dans ce qui ne lui convient pas, urfan, c'est-à-dire dans la coutume des gens. Il dit, et la majorité des gens disent que ça, c'est l'israf, c'est de l'excès. Et il dit, قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف. Ce qui est apparent dans le Coran, c'est que c'est de l'excès, c'est l'israf. Donc, ce que j'en comprends ici, ce qu'il dit, c'est que la yaliq bihi, c'est-à-dire ce qui ne lui convient pas, urfan. C'est-à-dire, par exemple, lui, il est ingénieur, il doit dépenser, et il a un salaire d'ingénieur, il dépense conformément à sa situation. Et il ne cherche pas à dépenser comme un PDG. Ou lui, il est ouvrier, monteur, il ne cherche pas à dépenser comme un médecin. C'est-à-dire, dans la coutume des gens. Dans la coutume, celui qui a 1500 euros par mois, bah, il va avoir un appart avec ça, ça, ça. Il ne cherche pas à faire plus. C'est-à-dire à se donner une apparence, on va le voir aussi dans d'autres hadiths, il va expliquer ça. Il ne cherche pas à avoir une apparence supérieure à sa situation, à sa vraie situation. Il ne cherche pas non plus à avoir une apparence inférieure à sa situation. Conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah aime, quand il donne des bienfaits à sa créature, les voir sur sa créature. C'est-à-dire que si la personne elle a eu la ni'ma d'avoir de l'argent, Allah il aime que ça se voit sur elle. C'est-à-dire qu'il dépense conformément à ce qui lui convient. Ça sert à rien s'il a de l'argent de se forcer à dépenser moins et de s'habiller avec des sales vêtements par exemple ou des vêtements de basse qualité alors que lui il peut s'acheter la qualité, il a les moyens. Donc la morale de l'islam général elle est comme ça, c'est de que chacun y dépense conformément à son grade et à son argent et il ne cherche pas à aller ni plus haut ni plus bas. Donc on va s'arrêter là inshallah.
Wa nas'alullah ta'ala an yufaqihana fi dinihi wa an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.